antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h41 sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, nous accueillons donc ensemble Catherine au 3921. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment allez-vous Catherine ?
Très bien, merci.
Bon, très bien. Alors dites-moi ce qui vous amène.
Eh bien, l'autre jour j'ai entendu un monsieur qui se sentait un petit peu dépourvu devant l'alcoolisme de son frère et qu'il avait des scrupules à ne pas l'héberger ou à ne pas pouvoir le recevoir chez lui à cause de sa famille, etc., puisqu'il avait femme et enfant.
Oui.
Et moi, j'ai assisté à peu près à la même déperdition chez mon frère qui est mort au mois de juillet de l'alcoolisme.
Oui.
Il avait 57 ans. Et c'est vrai que je me suis longtemps battue contre cet état, contre lui donc, pour lui faire prendre raison que ça allait l'emmener vers la tombe, quoi, s'il continuait. Et en fait, après, arrivé à un moment donné, on se retrouve simple spectateur du gouffre dans lequel la personne se plonge. On peut rien y faire.
À votre avis, quelle était l'origine de...
Alors oui, bonne question. Bonne question. Après sa mort, je me suis dit, mais ça remonte à quand, ça ? Ça a commencé quand ? Et en fait, c'est venu petit à petit de façon pernicieuse presque. Vous savez, comme un serpent qui rampe. C'est venu de façon gravissime là où il en était, très lentement, si vous voulez, dans la progression, mais après, ça a été un puissant fond.
D'accord.
Quand il était en réanimation, avant sa mort, à l'hôpital de Montauban, le médecin qui nous recevait à chaque fois pour nous dire voilà, il en est là, il en est là, il m'a dit, ne vous en voulez pas, le produit était plus fort que lui. Et je crois qu'il avait tout dit.
Oui, parce que on évoquait hier soir avec Jean-Baptiste cette addiction au cannabis, mais aussi à l'alcool.
Oh, oui.
Et on en parle, hein, bien évidemment, de l'alcool. Voilà. Même si on évoque souvent, on pense toujours que l'addiction, on parle d'abord de drogue. Mais vous savez, j'y pense souvent, moi, à ça. C'est l'occasion, d'ailleurs, d'ouvrir vraiment encore une fois ici, sur cette libre antenne. Et comme son nom l'indique, libre, je pense souvent à tous ces gens que je croise chaque jour et qui souffrent de cette addiction de l'alcool, ouais, avec cet alcool en vente libre partout.
Vous savez où il en était les derniers temps ? Il avait été hospitalisé, donc il est mort au mois de juillet, il avait été hospitalisé en mars.
Oui.
Toujours pour la même raison, puisqu'il avait des problèmes de santé qui en découlaient, hein, forcément. Et j'avais été le voir là où il était hospitalisé. Et je lui dis, t'en es où de ta consommation d'alcool ? Et il a eu un petit sourire ironique. Et mon compagnon, il lui dit, t'en bois combien, Jean-Louis ? Et il dit, un litre et demi, deux, trois, ça dépend. Il en était au martini blanc. Parce que son corps supportait plus autre chose.
Oui.
Voilà.
Mais vous voyez, ce que je vous disais, c'est que cet alcool qui est en vente libre partout, c'est une catastrophe parce que, non pas qu'il soit en vente libre partout, hein, c'est quand même une catastrophe, hein, qu'il soit. En fait, c'est culturellement que notre pays est ancré dans cette consommation d'alcool, vous voyez, parce que. On a d'abord aussi des régions qui produisent, chaque région a sa spécialité, hein, d'alcool. On pense qu'il n'y a que dans le Bordelais qu'on fait du vin, que Reims c'est le champagne, Mais chaque région, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, en Normandie, c'est le calva, ailleurs,
oui.
C'est la poire. Vous voyez, on est ancré dans cette culture de la consommation de l'alcool depuis tellement longtemps que je pense que la prévention pour les jeunes, elle n'est absolument pas adaptée aujourd'hui comme la prévention pour les drogues. Parce que on a beaucoup de prévention pour les drogues aujourd'hui. Beaucoup.
Oui, oui, oui. Oui.
Mais vous me corrigez hein, si je me trompe, mais moi, la seule prévention que j'ai vue pour l'alcool, c'est alcool et volant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Or, l'alcool tue énormément en France chaque année. L'alcool est une problématique aujourd'hui pour une jeunesse qui consomme de plus en plus dangereusement l'alcool, avec des répercussions sur leur santé. Vous parlez de votre frère de 57 ans.
C'est vrai que ça peut être festif. Mais
bien sûr que ça peut être festif, mais une fois de temps en temps, vous voyez.
Arriver à en mourir.
Mais ouais, parce que 57 ans.
Ah, il m'a fallu du courage pour franchir cette porte sa chambre quand il était en réa.
Ouais.
Ça a été terrible sa fin de vie.
Il est parti de quoi exactement? Il avait une cirrhose au foie? C'était le foie qui était touché?
Il avait tout, le pancréas qui fonctionnait plus, le foie qui fonctionnait plus.
Ouais, parce que c'est une saloperie l'alcool. Hein.
Les poumons qui étaient atteints, puisqu'il était intubé, il ne pouvait plus tousser. Donc il ne pouvait plus expectorer, donc les poumons étaient encombrés. Ça a été terrible, terrible.
Et est-ce qu'il a tenté de se désintoxiquer, votre frère ou...
Oui, 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 il a fait une cure. On est une fratrie de quatre. J'étais... la seule à ne pas être dupe, je savais qu'il, même en sortant de cure, qu'il avait replongé aussi sec. Mais mon autre frère et ma sœur, ils étaient persuadés qu'il avait arrêté de boire. On l'invitait à un repas familial, puisqu'on n'a plus nos parents. Donc on avait plaisir au moins une fois par an à manger tous les quatre ensemble, avec qui son compagnon, qui sa femme, etc. Il est arrivé avec sa bouteille d'eau. Non, je bois pas, je bois plus.
Mmh. Non, mais ce qui est terrible dans cette addiction, c'est encore une fois, je vous dis, de pouvoir en trouver partout. Puis c'est extrêmement difficile d'arrêter l'alcool parce que, comme
quelqu'un
vous dites, c'est
qui est
festif.
Fragile ou qui a des... Parce que je pense qu'il y avait ça à la base. Je sais pas, il y avait... Alors qu'on se confiait beaucoup tous les deux, je l'appelais souvent, mais je savais qu'il y avait des horaires où il fallait pas que je l'appelle. Passer 18 heures, il fallait pas que je l'appelle.
Et pourquoi ça?
Parce qu'il était déjà bourré.
Ouais.
Puis il répondait plus au téléphone.
J'ai un oncle qui est parti de ça. Un oncle qui avait une vie incroyable. Il avait fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois. Il avait eu une vie incroyable, incroyable. Il avait été vivre chez les Papous en Indonésie. Cet homme avait une vie incroyable et il avait un gros traumatisme parce que mon grand-père le battait très gravement quand il était plus jeune. Et je l'ai vu pendant 30 ans, je pense. Oui, c'est ça, 30 ans. Ne jamais décrocher de ça. Et en fait, vous évoquez les repas de famille.
Ouais.
Mais imaginez combien aujourd'hui c'est compliqué de ne pas boire une goutte d'alcool. Parce que quand on travaille, il y a le pot de départ d'un collègue ou ailleurs, ou alors il y a l'arrivée de naissance.
Et dans les entreprises, ça se fait plus maintenant.
Mais si, il y a quelques entreprises en tout cas.
Ah bon?
Ici. Entre collègues, voilà, s'il y a un bébé qui arrive, on peut...
Eh oui,
voilà,
on va
s'il y a un anniversaire, s'il y a quelqu'un qui change de service, si...
Voilà,
et c'est compliqué. Après, quand on va boire l'apéro chez des amis, quand on est en vacances, quand il fait... Voilà, quand les beaux jours arrivent, le rosé, c'est difficile de résister à ça, mais...
C'est ce que je disais, ça peut être festif, mais...
Mais le problème, je vais vous dire, aujourd'hui, Catherine, c'est que l'alcool aussi... chez beaucoup, beaucoup de personnes, Il n'y a pas du tout une prise de conscience qu'elles sont alcooliques.
Et puis, il y a aussi... vous savez, les plus démunis, c'est peut-être... ça leur peut... Enfin, je vais peut-être dire une connerie, mais je parle pas de mon frère, hein, mais les plus démunis, ça leur fait peut-être oublier aussi un peu la tristesse de leur vie. Hein.
Mais il y a de ça, bien évidemment. Comme toute drogue.
Ouais.
Parce que l'alcool est une drogue...
Ouais, mon frère, il avait un boulot. Bon, il l'a perdu parce que, bref, pas à cause de l'alcool, mais parce que sa boîte a perdu un gros contrat. Bref, il habitait une jolie maison. Et il avait femme et enfants. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa maison.
Mais oui, bien sûr. Au même titre, comme je vous disais, que l'héroïne, que la cocaïne.
Heureusement qu'il est tombé sur une assistante sociale quand il était en première cure de désintox, qui lui a trouvé un logement social. Moi, je ne me serais pas vu l'héberger chez moi. Hein.
Bien sûr. Bah, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on a quelqu'un qui souffre.
Au quotidien.
Souffre de ça.
Là, il avait une compagne quand il est mort au mois de juillet, qu'il avait depuis 4 ans. Je la remercierai jamais assez parce qu'elle a été d'une patience d'ange avec lui. Et elle me disait que le matin, il attaquait à 10 heures. Hein. Mmh. Donc le midi, il mangeait pas, il avait plus faim. Il se couchait, il dormait. Il se réveillait vers 4h30 et il recommençait. Mmh. Jusqu'à 20 heures.
C'est un suicide à petit feu, hein, ce que vous racontez.
Oui, je pense que c'était ça.
Ben ouais.
Je pense que c'était ça.
Et puis
ça.
Quand on perd sa femme, ses enfants, sa maison, son boulot, au fur et à mesure que tout dégringole, c'est terrible. Mais voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, vous évoquiez les plus démunis d'entre nous. Mais oui, c'est comme toutes les drogues, en fait, l'alcool est... Au même titre que l'héroïne, que la cocaïne. Ben oui, c'est une drogue qui n'est pas chère, hein, finalement. Parce qu'une bouteille de martini, comme vous disiez, voilà.
Et je crois que Jean-Louis, mon frère, c'était ça. Il n'aimait plus sa vie, ce qu'il était devenu. Il me le disait des fois, quand je l'appelais ou même quand j'allais le voir. Il me disait, je suis devenue une grosse merde, Catherine. Je lui disais, mais non, dis pas ça, Jean-Louis, dis pas ça. Et à chaque fois, je lui disais, mais tu vas en crever, Jean-Louis. Il me dit, ben alors, faut bien mourir de quelque chose.
Et quand il a été à l'hôpital, en fait, est-ce que... Et là, c'était trop tard, bien évidemment, mais est-ce qu'il a une prise de conscience sur tout ça, en fait?
Ça faisait 8 jours qu'il mangeait plus. C'est pas qu'il voulait pas manger, ça passait pas.
Oui, mais est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là? C'est ce que je voudrais savoir.
Ah non, dans l'état où il est arrivé. Je l'ai vu une journée lucide, le jour où il a été hospitalisé. Après, ils l'ont plongé dans le coma parce que son état s'est dégradé très vite. Il est revenu à lui 24 heures. Et après, ça a été fini. Mmh. Ils ont décidé de le débrancher, ça servait à rien.
C'était le seul de la fratrie à avoir des problèmes comme
ça ? Ouais. Mon père buvait son petit coup. Il était chiant quand il avait picolé, mais pas comme Jean-Louis. Jean-Louis, c'était du lourd. Hein.
Ouais. Ah ouais. C'était du lourd, mais néanmoins, je pense que vous serez d'accord avec moi que pour Jean-Louis, c'est venu comme pour tout le monde. Ça vient... On se méfie pas de la consommation, vous voyez, tous les jours.
Je crois qu'au départ, il a aimé cet état, il aimait l'état d'ivresse.
Mais il y a plein de gens qui aiment cet état, Catherine. Il y a plein de gens qui aiment cet état. Vous ne l'aimez pas, cet état, quand vous êtes un peu euphorique,
je suis toute guette ce soir.
Que vous avez plus de facilité à parler, à évoquer vos idées. On parlait avec Jean-Baptiste hier d'affronter la réalité avec un boost, quelque chose qui nous désinhibe, même. Voilà, c'est comme ça, malheureusement, que ça vient. Je rentre le soir, et puis je me fais un petit whisky, puis après fais deux. Mmh. Oh non, mais on ne boit pas beaucoup. En fait, on ne boit qu'une bouteille de vin le soir, à deux. Mmh. C'est de l'alcoolisme. C'est comme ça que ça s'appelle.
Et
pourquoi on n'a pas cette prise de conscience? Parce qu'aujourd'hui, on dit, oh là là, il fume du cannabis. Oh là là, vous savez, il prend de l'héroïne de temps en temps. Ou il prend de temps en temps de la cocaïne. Oh oui, c'est vrai qu'il en prend tous les week-ends, mais c'est que le week-end. Hein.
Voilà. Bon, ben, mais moi, il me disait, mais j'arrête quand je veux.
C'est la même chose.
Il me disait, mais j'arrête quand je veux.
Ben non.
Mais j'ai dit, ben essaye, Jean-Louis. Mm-hmm. Ah oui, mais non. Il me dit, on n'a qu'une vie, hein.
Ouais, on n'a qu'une vie, il avait raison.
Oui, il avait raison.
Ouais.
Voilà, donc c'est pour dire à tous ces auditeurs, tous ces gens qui témoignent, de dire que faut pas s'en vouloir si des fois on n'arrive pas à persuader l'autre que ça va loin. Non, il n'entend pas. Il ou elle n'entend pas. Parce que c'est pas que les hommes aussi, hein.
Ah non, non, non. Non, non.
C'est comme ça. Moi, comme je disais aux médecins cet été à Montauban, je leur disais, mais j'aurais voulu le garder encore un peu. Voilà. Et puis, ben, lui, voilà, c'est comme ça. Mais ce qui me rassure un peu, pas qu'il me rassure, mais il a entendu ce que je voulais lui dire. Hein. Parce que les peu de fois où il a été conscient, je lui ai dit à quel point je l'aimais.
Et dans ce moment-là, croyez-moi que...
Il me regardait avec ses grands yeux bleus.
Ça compte pour vous, en tout cas.
Ouais, il m'a regardé avec ses grands yeux bleus.
Merci en tout cas, Catherine, d'avoir témoigné ce soir pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, on est tous tentés... par ce petit verre dont on parlait, et ce petit verre qui peut se démultiplier à un moment sans qu'on s'en aperçoive par plusieurs verres. Donc, mille merci pour ce témoignage très, très haut en émotion. Merci.
Merci.
Passez une belle nuit, Catherine.
De même.
Au revoir.
Au revoir, Olivier. Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS.